France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Du chômage partiel pour les salariés du privé, des congés spécifiques pour les fonctionnaires et des arrêts maladie pour les indépendants. Le gouvernement apporte des solutions pour les parents dont les enfants se retrouveront sans établissement scolaire à cause d'un cas de contamination de Covid-19. L'indemnisation sera attribuée à un parent par foyer, seulement si le télétravail est impossible. Pour faire face à l'épidémie, le gouvernement devra par ailleurs prendre des décisions difficiles dans 10 jours maximum. Jean-François Delphine Frécy, président du conseil scientifique, met en garde. Dans le journal de 6h30 tout à l'heure, nous interrogerons un médecin à Marseille où les chiffres inquiètent certains professionnels de santé. Les chiffres justement ce matin, Santé publique France a enregistré plus de 8500 nouveaux cas de contamination en 24 heures. C'est 2000 de plus que la veille, avec toutefois moins d'hospitalisations. La France est prête à prendre sa part dans la solidarité après l'incendie qui a ravagé un camp de migrants de Lesbos en Grèce. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, le précise. Le camp, quasiment entièrement détruit, abritait 12 500 demandeurs d'asile. L'Union européenne financera le transfert et l'hébergement en Grèce continentale de 400 enfants et adolescents. L'Union européenne en ordre de bataille contre le projet de loi britannique controversé sur le Brexit. Une réunion d'urgence doit se tenir aujourd'hui à Londres car le gouvernement britannique prévoit de s'écarter de plusieurs points du précédent accord en violation assumée du droit international. Les deux tiers de la faune sauvage ont disparu en moins de 50 ans sur notre planète. Voici l'alerte ce matin de WWF qui pointe principalement l'activité humaine. Nous y reviendrons dans une demi-heure. Et puis sachez que pendant ce temps, les incendies ravagent toujours la côte ouest américaine. Une impression d'enfer sous des vents violents. Au moins 6 personnes sont mortes. Cela va de l'état de Washington jusqu'au sud de la Californie.
Le 2 mai 1980, le jeune journaliste Edoui Plenel, débauché du Matin de Paris, arrive à la rédaction du Monde. 15 ans de très grand bonheur, dit-il, d'abord à la rubrique éducation, puis police. Il enchaîne les enquêtes et révèle à 33 ans l'affaire du Rainbow Warrior. Raconter le parcours d'Edoui Plenel, c'est aussi raconter l'histoire d'un succès journalistique, celui du site en ligne Mediapart. À voix nue, Edoui Plenel, cette semaine à 20h sur France Culture et sur franceculture.fr.
France Culture, partenaire du dossier de l'Obs, Génération Covid, la jeunesse sacrifiée. Témoignages de jeunes en galère d'emploi ou encore leur réaction face à la Covid. Avec à l'appui l'interview de Sarah El Haïry, secrétaire d'État à la jeunesse, et de l'analyse du psychiatre Serge Fez. Retrouvez la grande table ID d'Olivia Gesbert, lundi 14 septembre dès 12h55, sur l'infantilisation de la jeunesse, avec le philosophe Michael Fossel. Le dossier de l'Obs, Génération Covid, la jeunesse sacrifiée, actuellement en kiosque. Un partenariat France Culture.
6h03 sur France Culture. Nous nous réveillerons en douceur avec Toufik Hakem et son réveil culturel dans 3 minutes. Mais avant, que nous dit le monde vivant de Bruno David ? Que le chien sauvage est anarchiste.
Il est parfois tentant de chercher dans la nature des comparaisons tantôt flatteuses, je suis fort comme un tigre, tantôt stigmatisantes, il est fourbe comme un chacal. Cela peut aller jusqu'à justifier nos façons de vivre en ayant recours à ce qui se passe dans la nature. En réalité, les comparaisons avec le monde vivant sont d'un intérêt limité, dans la mesure où l'on y trouve de tout, l'infanticide et le dévouement, le viol et la fidélité, le vol et le don, l'égoïsme et le sacrifice, la hiérarchie et l'anarchie. Partons de ce dernier duo, hiérarchie versus anarchie. Anarchie ne signifie pas désordre, comme on le pense trop souvent, mais absence de commandement, en un mot, absence de chef. Convoquons un couple d'espèces proches pour illustrer ce duo, les loups et les lycaons, tous deux de la famille des canidés. Les loups sont très hiérarchisés, à tel point que dans une meute, seul le couple dominant, couramment appelé alpha, a un accès privilégié à la proie capturée. Ils mangent en premier, et malheur à celle ou celui qui veut bousculer cette hiérarchie. Parlons maintenant du lycaon, Lycaon pictus, canidé de la savane africaine. Commençons par son nom. Lycaon est ce roi grec d'Arcanie, puni pour son anthropophagie par Zeus, qui le transforma en demi-loup. Cette référence à la mythologie grecque est due aux zoologistes qui, découvrant en 1820 ce drôle de loup, hésitèrent à le ranger parmi les hyènes ou parmi les loups. Ce chien sauvage aux grandes pattes et à la robe tachetée de brun, jaune, blanc et noir fascine les éthologistes, car toutes les tâches collectives aboutissent à un bénéfice mutualisé. L'exemple le plus illustratif est l'effort de chasse. La meute, constituée de 5 à 20 individus, part chasser. Les petits de la troupe sont gardés vers la tanière par quelques lycaons, y compris des individus blessés ou âgés. La chasse emmène les autres au loin, parfois vraiment loin. En effet, les lycaons sont des chasseurs à l'endurance qui poursuivent leur proie sur des kilomètres. Le gnou ou le zèbre, immobilisé, tétanisé, parfois même victime d'une crise cardiaque, est alors déchiqueté sur place. La meute, épuisée, rentre, puis régurgite la viande aux individus restés à la tanière. La régurgitation se fait indistinctement vers jeunes, vieux, malades. Les deux individus reproducteurs, qualifiés de alpha, laissent la priorité aux petits. Au Botswana, on a observé une femelle alpha perdre l'usage d'un membre. Incapable de chasser, elle est néanmoins restée femelle alpha pendant plusieurs années. Nourrie par la meute, elle a continué à faire des petits. Chez les loups, cette blessure aurait signifié une mort certaine. Chez les lycaons, les relations sont pacifiques, si bien que leur mode social a parfois été qualifié d'altruiste. La seule trace de hiérarchie, si l'on peut utiliser ce terme, est que c'est la femelle alpha qui donne le signal du départ pour la chasse. Les règles qui régissent notre vivre ensemble doivent être discutées rationnellement entre nous, et la nature ne nous aide aucune aide pour cela. Les lycaons sont des anarchistes qui nous laissent face à nos responsabilités.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui le chanteur Julien Doré est l'invité du Réveil culturel. Il vient de sortir un nouvel album et à cette occasion, on a pu mesurer son étonnante popularité. De France Inter aux radios musicales pour jeunes, des Inrocuptibles aux Parisiens, Julien Doré est adulé. Il fédère des publics divers dans une période qui a tendance plutôt à multiplier les cloisons entre les gens et entre les genres. Mais qu'est-ce qui plaît tant chez Julien Doré? Sa voix grave et apaisante à la fois, sa capacité incroyable de trouver à chaque titre ou presque le refrain qui va nous coller ensuite toute la journée, les paroles de ses chansons, car si on écoute bien les textes d'Aimé, ce cinquième album de Julien Doré, eh ben cet album parle des angoisses et des violences de l'époque, dystopie et compagnie. Et pourtant, les chansons de ce disque sont plutôt gaies, parfois drôles, et les musiques douces ou entraînantes. L'art de la chanson permet cette alchimie. Tout ce qui est plombant peut se transformer en ritournelle légère ou dansante. Mais comment Julien Doré écrit-il ses chansons? Qu'est-ce qu'elles disent de lui? Qu'est-ce qu'elles disent de nous? Et qu'est-ce qu'elles disent de notre époque?
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Bonjour Julien Doré.
Bonjour, merci.
Alors on va faire un peu de cantologie ce matin, vous savez ce que c'est?
Vous allez m'aider à développer.
Bah oui, parce que moi-même j'ai découvert ça, la cantologie, comme dirait Stéphane Hirschi, l'universitaire qui a inventé ce terme, et l'étude de la chanson dans sa globalité. Et d'ailleurs, on peut lui rendre hommage au passage, parce que Stéphane Hirschi a publié beaucoup d'études intéressantes sur les chanteurs français, d'Aristide Bruant à Jacques Brel et de Gérard Manset à Mano Solo. Et une d'entre elles, de ses recherches, publiées par les presses universitaires de Valenciennes, a pour titre « Chanson de point, l'art de fixer l'air du temps ». C'est une définition qui colle très bien aux 11 titres de votre dernier album. Mais peut-être que vous avez une autre définition de la chanson, Julien Doré.
Moi, je vois la chanson comme un vrai espace de liberté et je l'ai assez souvent défini comme un voyage. Oui. Vous faisiez référence à des cases, je crois, dans votre introduction. Vous disiez que parfois, justement, la chanson ou les styles musicaux pouvaient être enfermés dans des cases parce qu'il y avait quelque chose de rassurant là-dedans. J'ai toujours trouvé assez étonnant qu'on puisse condamner certains voyages possibles chez un artiste, son univers, à partir du moment où on avait cru savoir comment le définir et donc comment l'emprisonner d'une certaine façon. C'est pour ça que je fais référence au voyage, parce que dans une chanson, il y a vraiment l'idée d'un point de départ, mais d'une destination qu'on ne maîtrise pas du tout, en fait.
Diriez-vous que c'est une fuite ?
Il y a aussi la notion de fuite, mais il y a aussi la notion d'exploration des émotions possibles, en fait.
Premier titre de l'album, sorti pour accompagner et surtout tempérer la torpeur de notre été particulier, avec masque mais sans palme, La Fièvre, extrait. Mais le monde a changé, il s'est déplacé quelques vertèbres. Où était l'ostéo caché dans mon dos, attendant la fièvre? Ça, c'était pour cet été, pour nous faire patienter. Et puis, quand l'album est sorti la semaine dernière, on a pu écouter un autre single sur les ondes, Barracuda, tout aussi entraînant. Extrait.
Tout le monde a quelque chose à dire, sur mes cheveux ou le climat. Bien que les deux aillent vers le pire, personne ne se battra pour ça. Tout est encore un peu possible, mais plus personne ne le voit. Les yeux bandés sur l'invisible, demain nous appellera papa.
Tout le monde a quelque chose à dire sur mes cheveux ou le climat. Bien que les deux aillent vers le pire, personne ne se battra pour ça. Le sens de la dérision. Pour revenir quand même encore sur l'urgence climatique, un thème omniprésent dans cet album, Julien Doré.
Un thème présent dans cet album, parce que cet album s'adresse à demain et à une nouvelle génération, et qu'on ne peut pas faire abstraction de cette crise-là, de laquelle dépend d'ailleurs beaucoup de problèmes et de situations délicates au quotidien. Et on ne peut pas faire abstraction, je pense, quand on est artiste, de ces problèmes-là, surtout dans une période où justement, ceux qui auraient le pouvoir de prendre de grandes décisions pour régler ou du moins transformer ces problèmes en solutions passent plutôt leur temps à faire semblant de ne pas les voir ou à les repousser, voire même encore pire, à culpabiliser les populations sur ces problèmes-là en expliquant à chacun d'entre nous que c'est de notre faute si nous sommes dans cette situation-là et que c'est à chacun d'entre nous de changer son mode de vie pour régler ces problèmes-là. C'est toujours forcément quelque chose que j'ai trouvé très étonnant dans mon temps de silence de près de 3 ans, d'observer à quel point parfois les décideurs que l'on choisit, dont parfois la vision nous porte, finissent une fois au pouvoir par nous culpabiliser dans notre quotidien, sur notre fonctionnement, nos modes de vie. Et vous parliez de dérision, moi je parle aussi d'auto-dérision dans ces chansons-là pour
mieux faire passer le message.
Pour faire passer le message et surtout pour dire que à aucun moment dans ces chansons-là,
je ne suis donneur de leçons.
Je ne suis donneur de leçons, mais ouais. Vu ma position, vu mon privilège d'être artiste, d'avoir la possibilité de m'exprimer, la possibilité de vivre de ma passion, qui est un immense privilège, je ne me permettrai de donner des leçons, alors que justement au quotidien je ne le supporte pas, venant encore une fois de gens qui auraient la possibilité de régler beaucoup de choses.
Vous êtes interprète, mais vous êtes aussi auteur-compositeur, Julien Doré. Comment vous faites pour écrire les textes? Parce que là, ces textes, ils sont, si jamais on les prend sans la musique, si jamais on enlève l'autodérision, ils sont quand même empreints d'une gravité.
Oui. Je trouve dommage que dans la pop-musique française, au nom de la danse, au nom du divertissement, au nom du besoin bien nécessaire de faire sourire, de faire danser les gens, les artistes ont parfois tendance à condamner la partie sombre de leur pensée parce qu'ils pensent que si elle est exprimée en chanson, elle va tout de suite condamner le côté ludique et divertissant de leur travail. Ça fait déjà plusieurs albums que je me pose cette question parce que je suis absolument persuadé qu'on peut tout à fait danser sur des choses graves. Et qu'il y a un décalage entre, effectivement, certaines parties de mes textes et la production sonore que je décide de faire pour celle-ci, oui.
Avec des références pour ce genre de réflexion, par exemple, est-ce que vous avez comme, comme référence Le Petit Train de Rita Mitsuko, où on peut parler effectivement de choses imminemment graves et sombres comme les camps de concentration dans une chanson qui passe à la radio et qui fait danser les gens.
Oui, bien sûr, parce qu'en plus je pense que justement dans une forme de légèreté et d'insouciance qui, à l'écoute, nous apparaît d'abord de par la mélodie, la production sonore, les arrangements d'une chanson. C'est d'abord ça qui nous traverse, avant qu'on ait le temps, au fil des écoutes, de pouvoir pénétrer dans le texte, dans l'essence même d'une chanson. Je pense que justement, c'est quelque chose qui est assez rare et qui existe dans la musique, c'est de laisser le temps de rentrer dans la chanson. Et justement, ce décalage est intéressant lorsque ce qui nous apparaît tout d'abord peut nous paraître frais, dansant, joyeux. Et lorsque l'on rentre dans ce texte, qui est pourtant un texte écrit avec la langue avec laquelle nous parlons, donc il devrait nous apparaître immédiatement, et pourtant, avec un peu de temps, on se rend compte qu'il y a des parts sombres et parfois pessimistes aussi sur une chanson qui peut-être depuis quelques semaines nous fait danser.
Julien Doré, est-ce que c'est cette urgence climatique qui a décidé votre changement radical, c'est-à-dire quitter Paris, retourner vivre dans les Cévennes? Est-ce que c'est pour le calme, pour le besoin de renouer avec vos racines ou tout simplement pour réapprendre à vivre autrement et avec un autre rapport au vivant et à la nature?
Oui, c'est pour réapprendre à vivre autrement, tel que je l'avais fait pendant 24 années de ma vie. Oui, exactement.
C'est-à-dire
j'ai passé 24 ans dans ce sud-là, j'y suis né, j'y ai grandi, et c'est vrai que le rapport aux choses, et même le rapport aux gens, c'est exactement comme ça que j'ai été construit, éduqué, et il y a eu une forme de perte de repère pendant ces quelques années à Paris, où j'avais le sentiment d'un dérèglement, justement, dans mon rapport aux choses, parce que j'avais l'impression que tout était dépendant de mon éventuelle petite notoriété ou de ces lumières artificielles qui se mettaient à m'éclairer au quotidien. Je trouvais ça très, très étrange de me rendre compte qu'en tant qu'être humain, je pouvais perdre des repères qui faisaient partie de mon conditionnement, de mon éducation, je pouvais perdre ces repères-là par des choses artificielles. Voilà, j'avais besoin de rattraper ces racines avant qu'elles ne m'échappent, oui.
Pour prendre un peu d'avance, passons à un autre titre de l'album, votre dernier album, Julien Doré, et c'est un titre qui n'est pas encore un tube. On prend de l'avance, on l'écoute.
Voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello, bien qu'on n'ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et d'ego et quelques langues à défaire. Pour les revoir se plaire. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre.
C'est extrait de votre dernier album, Julien Doré, Aimé, et cette chanson s'appelle Nous, 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 on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est entre nous.
Ouais.
On entend entre nous, et ouais. En fait, quand c'est tendre nous.
Oui.
Bon, alors chacun, bien sûr, a le droit d'avoir sa propre écoute. Chacun va recevoir cette chanson comme il veut. Mais je ne serai pas le seul à entendre dans cette dualité entre le nous et le vous toute la radicalité des combats et des protestations d'aujourd'hui.
Oui, oui. Effectivement, il y a ce jeu de mots entre, finalement, dans une époque où on a tendance à se rassurer en se disant, bah finalement, tant qu'on est entre nous, tout va bien. Tant qu'on a la possibilité d'être une famille qui s'oppose à une autre. Le jeu de mots là-dedans, il est évidemment avec la tendresse. Tant qu'on est tendre, nous. Tant qu'il y a cette armée de tendresse qui avance,
et les vous
pouvez...
C'est qui ?
En fait, le couplet, si vous voulez, dit justement « on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers, imaginez monter l'eau, bien qu'on n'ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre, hormis un peu de ventre et d'ego. » C'est justement dans cette côté très, très matériel aussi, d'une époque qui nous rappelle chaque jour que justement cette outrance liée au matériel devient extrêmement pathétique. Bah, c'est tous ceux qui sont rassurés par le sentiment d'une existence qui n'a de sens qu'avec l'hyper besoin matériel. Et cette idée d'abandon, justement, d'abandon de tout ça, est symbolisée dans ce refrain-là.
Et dans cet album, Julien Doré, il y a une autre chanson, Lampedusa, l'île de Lampedusa, oui, désormais liée au drame des réfugiés. Et c'est une nouvelle occasion pour vous de jouer avec le « vous » et le « nous », oui, d'une manière tout aussi poétique, quoique ici, d'une manière un peu plus profonde, puisque le « nous » à l'adresse des réfugiés, c'est aussi le « nous » qui rappelle notre humanité.
Dans ce matin trop chaud où nos larmes se font fines, où l'espoir est tressé entre la corde et la cime, il y a nous, il y a nous. C'est dans ce coup de dé que nos âmes se déplacent, dans ce corps épuisé, écrasé à la masse, jusqu'à vous, jusqu'à vous. Sur ce radeau bancal, les murennes s'écrasent, où le vent devient fou de ces flots cannibales, il y a nous, oh, il y a nous, oh, il y a nous, oh, il y a nous, oh.
Lampedusa, Julien Doré. Dans ce matin trop chaud où nos larmes sont fines, où l'espoir rétrécit entre la corde et la cime, il y a nous. C'est dans ce coup de dé que nos âmes se déplacent, dans ce corps épuisé, écrasé à la masse, jusqu'à vous. Sur ce radeau bancal où les murennes s'écrasent, où le vent devient fou de ces flots cannibales, il y a nous encore.
Oui.
D'abord une colère ou une envie de rappeler votre humanité vis-à-vis du drame des réfugiés, Julien Doré.
Bien sûr, et surtout un déplacement du jeu narrateur. C'est-à-dire que je me rendais compte que dans les chansons que je venais de terminer d'écrire, celles qu'on a pu écouter d'ailleurs juste auparavant, parfois certaines de mes questions, voire même de mes plaintes, se situaient quand même dans un pays qui est le mien, qui n'est pas en guerre, où j'ai cette immense chance de pouvoir m'exprimer comme je le souhaite, cet immense privilège d'être un artiste dans ce pays-là, et que c'était une chose d'avoir fait ces chansons-là, mais j'avais besoin, en regardant l'horizon, que ce jeu narrateur se déplace et aille dans la bouche, dans les mots de celui ou de celle qui s'apprête à faire le voyage vers moi. Je pensais qu'il y avait une vraie cohérence, un vrai équilibre, finalement à poser les mêmes questions sur ce monde, mais d'un point de vue qui se trouvait de l'autre côté de l'océan, de l'autre côté de la mer. Avec d'ailleurs un point de départ dans cette chanson qui est l'immense espoir de ce voyage. C'est un voyage
pour la survie,
plein d'espoir, oui, au départ, et qui petit à petit, jusqu'à ce radeau bancal dont vous avez cité quelques lignes, commence à se dérégler.
Mais il y a nous, il y a nous, il y a nous, il y a nous.
Ce cœur d'enfant, à la manière d'Another Brick in the Wall de Pink Floyd, c'est aussi une manière pour vous, Julien Doré, d'arranger, comme vous l'entendez, vos chansons, parce qu'on a parlé des textes, maintenant on peut parler de votre manière d'arranger cette chanson. Je sais que vous êtes seul au piano quand vous composez, généralement.
Oui. Piano, guitare, mais effectivement...
Et comment s'invitent les autres instruments? Comment vous imaginez l'orchestration?
C'est l'étape d'après, en tout cas sur ce disque-là. Je terminais les chansons d'abord face à mon piano, en dialogue avec celui-ci. Alors c'est un dialogue un petit peu particulier parce que je connais pas le solfège, donc je mémorise la position de mes doigts lorsque je trouve une mélodie. Parfois même je la filme pour vraiment ne pas oublier. Mais je n'ai pas de repère de solfège, donc je ne sais pas vraiment à quoi correspondent.
C'est à l'oreille, au feeling.
À l'oreille et vraiment aux yeux. C'est vrai que souvent on parle, quand on connaît pas le solfège, on dit que c'est à l'oreille, mais en fait, je mémorise des positions de doigts. Vous voyez, c'est très étrange, mais voilà, ça fonctionne un peu comme ça. Et puis quand cette étape-là donne naissance à une structure et à un texte qui est quasiment là, je descends dans mon petit home studio qui est dans une ancienne cave chez moi que j'ai aménagée. Et là, je commence à fixer les choses. Ça devient une maquette. Et sur cette maquette, déjà, j'y apporte la rythmique, donc un certain tempo, une vision déjà de la rythmique globale de la chanson. Et puis ensuite, une fois cette partie de maquette et de pré-production faite chez moi, dans mon petit home studio, j'ai rencontré quelqu'un de formidable qui s'appelle Tristan Salvati, avec qui je me suis enfermé dans une autre cave, la sienne, à Paris pendant quelques semaines. Et chaque jour, on a soigner les productions de ce disque tous les deux. On était vraiment vraiment en binôme et là voilà, on a commencé à passer d'une guitare à une basse à des rythmiques, à des percussions, à des chœurs et on avançait comme ça tous les deux sur la production de ce disque.
Et ce disque est dédié à votre grand-mère.
Disons que ce disque porte le prénom de ma grand-mère. Il est dédié à demain, il est dédié à l'enfance, il est dédié aussi à la transmission. Mais effectivement ce prénom qui est donc le prénom de mon album, c'est le prénom de ma grand-mère. Et ce qui est étonnant, c'est que l'album était totalement fini, bien avant le confinement, au mois de février d'ailleurs. Et je n'avais toujours pas le titre de cet album-là. Et c'est pendant le confinement que j'ai trouvé le titre de cet album, justement parce que je ne pouvais pas aller voir ma grand-mère de 99 ans pour la protéger, ce qui est quand même quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire qu'on a compris dans cette période que la protection passait justement par l'isolement. Alors que on a tendance à penser que pour protéger quelqu'un, il faut être présent à côté de lui. On a réappris le mot protection. C'est-à-dire que pour protéger ma grand-mère, il fallait que je sois à distance.
Est-ce que c'est un autre signe d'époque, cet amour pour les grand-mères l'année dernière? C'était l'homme pâle qui avait dédié son album à la grand-mère. C'est parce que aussi on se pose la question de notre rapport aux seniors, aux personnes âgées?
Oui, je pense. Et puis surtout, cette période qui nous inquiète beaucoup, qui nous travaille beaucoup, qui nous change beaucoup, qui va d'ailleurs définir chez nous notre capacité à nous adapter. On a connu des générations qui voulaient refaire le monde. Aujourd'hui, la nôtre, et c'est simplement de ne pas le voir se défaire. Le rapport aux anciens, il est que quand on discute, on se rend compte très vite dans leurs yeux que c'est eux qui sont inquiets pour nous et non pas l'inverse.
Dis-moi quelque chose.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Avec ce matin, Julien Doré, qui est venu nous parler de son dernier album, Aimé. Alors pour les concerts, il faut attendre l'année prochaine, si j'ai bien compris.
Oui, ce sera à partir du 1er octobre 2021, dans un an.
Bon, merci d'être passé, Julien Doré.
C'était un grand plaisir, vraiment.
Partagé, merci beaucoup. À la coordination, Corinne Amar, à la réalisation Vincent Abouchard et à la prise de son Claire Levasseur. Demain, c'est l'actualité de la bande dessinée et je recevrai Bastien Vivès et Martin Kenéen pour leur bande dessinée intitulée 14 juillet et qui parle de la France post-attentat. Bonne matinée sur France Culture.
Un jour tu feras tes valises, vers un lendemain sans tout ça, loin du sommeil des âmes grises qui sont partis bien avant toi. Et s'il en reste quelque chose.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Sur France Culture, la philosophie sème la zizanie. Le torchon brûle, Adèle.
On va se poser 4 questions pour se fâcher entre amis. Et oui, le paradoxe de l'œuf et de la poule, ce sera lundi. Collabo ou résistant, qu'aurais-je fait pendant la Seconde Guerre mondiale? Mardi, faut-il dire à son meilleur ami que sa femme le trompe à la veille de son mariage? Mercredi. Et enfin jeudi, faut-il séparer l'homme de l'œuvre?
Les chemins de la philosophie par Adèle Vendrette, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Les médias publics, ce sont les vôtres. Alors quoi de plus normal que d'imaginer leur avenir avec vous? En 2018 déjà, vous étiez très nombreux à nous répondre. Alors en cette année si particulière, qu'attendez-vous de vos médias publics? Info, éducation, divertissement, culture, sur nos réseaux de proximité ou internationaux, venez proposer vos idées sur nosmediapublics.fr. Parce que rien ne se fait sans vous, inventons aujourd'hui, ensemble, les médias de demain.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Des flammes à la une de l'actualité ce matin. Flammes sur la côte ouest des États-Unis, que les incendies ravagent. Et ce n'est pas encore la saison, c'est ce que nous dira une expatriée outre-Atlantique. Du feu également dans le camp de migrants de Moria à Lesbos depuis 2 nuits en Grèce. Ce sont probablement des demandeurs d'asile qui ont provoqué ces incendies pour protester contre leur confinement. Nous irons sur place. Nous entendrons ensuite un médecin de Marseille face à la progression de l'épidémie en France. Le conseil scientifique met en garde face au Covid-19. Et puis, un suspect a été arrêté 38 ans après l'attentat rue des Rosiers à Paris. Les familles des victimes restent toutefois prudentes quant à l'organisation d'un procès, vous l'entendrez. Écoutons donc d'abord ce qu'il se passe sur la côte ouest des États-Unis. Elle brûle encore sous de gigantesques incendies sans précédent. De la Californie jusqu'à l'État de Washington, ces feux entraînent des milliers d'évacuations. À San Francisco, à 80 km des flammes, les 5 millions d'habitants de l'agglomération ont passé toute la journée d'hier dans un épais nuage de fumée orange, quasi apocalyptique, comme en témoigne Julie Lavenne, une Française installée à San Francisco.
C'est un mélange de brouillard et de particules de feu. Et du coup, il y a une espèce de chape qui est sur la ville. Il y a un ciel un peu orangé, mais on voit rien. Et c'est comme s'il faisait nuit. Tout le monde, en se réveillant à 8h du matin, je me demandais s'il n'était pas à 4h, je me réveillais en pleine nuit. Non, pas du tout, il était à 8h. Et puis ça n'a pas bougé depuis. On distingue à peine downtown. Une sensation très, très étrange, très, très étrange. Tout le monde parle de l'apocalypse, que c'est la fin du monde, qu'on est sur Mars. Enfin, c'est une lumière, une luminosité vraiment qui fait peur. Tous les jours, on a l'impression qu'il y a un nouvel incendie qui arrive et qu'il est incontrôlable et qu'en fait, il met en danger. Il y a des évacués partout, partout, partout. Et c'est même pas la saison des incendies. Normalement, c'est plus tard. Ah non, c'est apocalyptique.
Voilà pour le témoignage de cette Française expatriée à San Francisco, Julie Leven, interrogée par Grégory Phillips. Des flammes aussi sur l'île de Lesbos en Grèce. Le plus grand camp de réfugiés d'Europe a été ravagé par des incendies hier matin. Les quelques 12 000 réfugiés qui s'y entassaient se retrouvent maintenant dans une situation encore plus précaire. Marie-Pierre Véraud, notre envoyée spéciale sur place, nous raconte.
Plusieurs incendies vite devenus incontrôlables ont en fait démarré simultanément en différents points une première fois dans la nuit de mardi à mercredi, puis hier soir de nouveau détruisant les quelques abris qui n'avaient pas encore été réduits en cendres. En longue colonne, les quelques 12 000 réfugiés, hommes, femmes, enfants, ont dû fuir au cœur de la nuit, jetés dans un nouvel exode. Le gouvernement grec a apporté des tentes, des bateaux ont été dépêchés pour abriter les plus vulnérables, mais beaucoup ont passé la nuit dans les champs. S'agit-il d'incendies criminels? Des responsables grecs accusent les migrants opposés au contrôle sanitaire après des cas de Covid, d'autres des habitants excédés. Pour Médecins sans frontières, la cause des flammes ne fait aucun doute. C'est le résultat de plusieurs années de souffrance et de violence produites par les politiques migratoires européennes et grecques. Changeront-elles? Seuls les mineurs isolés ont pu quitter l'île. La Grèce entend reconstruire à Lesbos un nouveau camp fermé et plus plus contrôlée.
Et en Europe, une certaine solidarité se met en place après cet incendie. L'Union européenne financera par exemple l'hébergement de 400 mineurs. En Allemagne, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier spontanément dans plusieurs villes pour exiger des autorités de prendre en charge des migrants. Le monde a perdu plus des deux tiers de ses populations d'animaux sauvages en moins de 50 ans. Le Fonds mondial pour la nature, le WWF, pointe les dangers de cet effondrement pour l'avenir de l'humanité en expliquant, rapport à l'appui, que cette perte est en grande partie la faute de l'activité humaine. Entre 1970 et 2016, 68% de cette faune sauvage a disparu. Une chute de la biodiversité particulièrement visible en Amérique du Sud. C'est une histoire qui se termine avant même d'avoir commencé. LVMH ne rachètera finalement pas Tiffany, célèbre joaillier américain. Cette transaction de prestige avait été annoncée en grande pompe en novembre dernier pour un montant record, plus de 16 milliards de dollars. C'était sans compter la crise sanitaire, Loïc Loury.
En novembre dernier, la promesse de Bernard Arnault, celle de la prospérité pour les siècles à venir, avait de quoi ravir le joaillier new-yorkais. Mais aujourd'hui, l'idylle s'est transformée en bras de fer. La faute, selon LVMH, à une succession d'événements de nature à fragiliser l'opération d'acquisition. Le groupe évoque la menace de taxes américaines sur certains produits français et la demande formulée en réaction par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, de repousser la transaction au 6 janvier prochain. Pour LVMH, cette porte de sortie incontestablement est bonne à prendre car Tiffany a perdu une partie de sa valeur à cause de la crise sanitaire, suite notamment à la fermeture de ses magasins pendant des mois. Entre février et avril, la perte nette s'élève ainsi à 65 millions de dollars contre un bénéfice de 125 millions un an plus tôt. Et son cours, 115 dollars par action, ce matin est loin des 135 prévus au départ. En face, le joaillier, lui, ne compte pas se laisser faire. Il assure que son activité est solide et il attaque surtout LVMH en justice sur le sol américain pour forcer sa propre vente et réaliser la promesse faite par le patron du groupe français.
Loïc Loury pour France Culture. Le gouvernement français va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles dans les 8 à 10 jours maximum. C'est le président du Conseil scientifique qui le dit, l'organe chargé de conseiller l'exécutif dans sa gestion de l'épidémie de nouveau coronavirus. Jean-François Delfraissy évoque des modélisations mathématiques qui montrent que les services de réanimation pourraient localement connaître des difficultés, et notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le professeur Nicolas Bruder est lui chef du pôle anesthésie-réanimation à Marseille, à l'hôpital de la Timone, et il partage cette crainte.
Alors le constat, c'est qu'on risque sûrement d'être en difficulté. On l'est déjà un petit peu, mais on risque de l'être. Jusqu'à quel niveau, c'est très difficile à dire. Après, les modèles mathématiques, ils aident un peu. Mais enfin, on a vu lors de la période précédente que les modèles mathématiques, ils sont extrêmement imparfaits. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a beaucoup de malades hospitalisés, au bout d'un moment, il y a beaucoup de malades en réanimation. Et donc, ça crée évidemment des problèmes pour le reste de l'activité. Et c'est ça qui complique les choses actuellement, c'est qu'on a repris une activité, je dirais, hors Covid, normale, avec beaucoup de traumatisés, avec des activités chirurgicales, avec des urgences variées. Et par-dessus, il faut faire de la place pour les Covid. Et ça, au bout d'un moment, ben, évidemment, ça devient très difficile. Donc, on va faire face, on va dire, sûrement dans la semaine qui vient, sûrement dans 15 jours. Mais il faut pas que ça augmente trop, parce qu'effectivement, il y a un moment où, comme ça s'est passé dans l'Est, on risque d'être débordé si ça continue à augmenter.
Des propos recueillis par Marc Baudevin. Le nombre de cas graves en réanimation est ce matin de 599, soit 71 de plus en 24 heures. Au gré des contaminations, les établissements scolaires et ou les classes continuent de fermer au compte-gouttes un peu partout en France et les enfants continuent de rester à la maison. Pour s'en occuper, le gouvernement annonce que les salariés du privé dans l'impossibilité de télétravailler seront placés en activité partielle. Ils pourront ainsi bénéficier d'un revenu de remplacement dès le premier jour de leur arrêt de travail et au plus tard jusqu'à la fin de la période d'isolement. C'est ce qu'explique le ministère des Solidarités et de la Santé. Un suspect arrêté 38 ans après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. C'était le premier acte terroriste du premier septennat de François Mitterrand. 6 personnes étaient mortes, 22 blessées en 1982. L'homme arrêté hier par la police norvégienne pourrait être Walid Abdulrahman Abdouzayed, dont la France demandait depuis plusieurs années l'extradition, Anne Fauquemberg.
Les espoirs se sont en effet heurtés à plusieurs refus d'extradition ces dernières années. De la Jordanie, où se trouveraient deux autres suspects, dont le cerveau présumé, mais aussi de la Norvège. En 2015, une première demande d'extradition de Walid Abdulrahman Abu Zayed avait échoué, le pays ne livrant pas ses ressortissants. Depuis, la législation a évolué, elle laisse entrevoir cette possibilité, ce qui soulage Romain Boudet, l'avocat de deux proches de victimes, et d'autant plus que cette nouvelle arrive quelques semaines après la déclassification de documents provenant des archives de Matignon et du ministère des Armées. Des documents qui, selon lui, attestent d'un accord secret de cessez-le-feu entre les renseignements français et la branche dissidente de l'Organisation de libération de la Palestine.
On a la preuve de ces rencontres et de ces négociations, ce qui a toujours été contesté auparavant par les autorités françaises. Et évidemment, si l'idée de cet accord dans les années 80 était d'offrir une forme de tranquillité aux organisations terroristes, nos clients s'inquiétaient de savoir si cet accord serait toujours en vigueur aujourd'hui et si elle bénéficierait d'une forme de mansuétude de la part des autorités judiciaires ou des autorités policières sur la foi d'un accord passé il y a trois dizaines d'années. Ça n'est semble-t-il pas le cas. Aujourd'hui, les choses ont bien progressé.
Reste que 38 ans après les faits, le temps presse pour l'organisation d'un procès dont on est encore loin. Selon Rémi Boudet, certains proches de victimes sont déjà décédés sans connaître l'issue de cette affaire.
Ce procès-là a lieu un peu moins de 6 ans après les faits, procès des attentats de janvier 2015. Depuis deux jours, les survivants de la tuerie de Charlie Hebdo, première cible des terroristes, les survivants témoignent à la barre. Ils se sont succédés hier encore, compte rendu de cette audience dans le journal de 7h tout à l'heure sur France Culture. Ce matin, sachez que ce sont les proches des personnes décédées qui vont commencer à livrer leurs témoignages. Quelques nuages bas, parfois humides, vont planer sur le nord de la Loire ce matin, des orages sur le sud-est, des éclaircies sur l'ouest, avec 15 degrés à Dijon ce matin, 16 à Lille et Brest, 19 à Paris, 21 à Perpignan. Il est 6h40, vous écoutez toujours France Culture, c'est l'heure du journal des idées avec vous, Jacques Meunier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
La période de confinement, Jacques, a mis en évidence notre attachement aux choses, cafetières, accessoires de bureau, écrans divers, smartphones. Plusieurs enquêtes explorent la réalité augmentée du monde des objets.
Oui, dans les pages idées de l'Obs, Pierre Singaravelou et Sylvain Venner raconte l'avènement de la modernité à travers les objets du quotidien. Le magasin du monde, l'ouvrage collectif qu'ils ont dirigé, vient de paraître chez Fayard, tenant d'une histoire globale qui cherche à s'extraire du seul point de vue occidental. Pardon, il s'inspire également de la façon dont l'histoire des techniques a été renouvelée depuis une trentaine d'années, passée d'une histoire de l'invention à celle de l'innovation plus étendue dans le temps et qui explique comment un usage s'améliore, puis à une histoire de la diffusion de l'objet, tout en évitant le présupposé selon lequel la diffusion d'un objet technique à l'âge industriel se fait nécessairement depuis l'Occident vers le reste du monde. On passe ainsi du shampoing d'origine indienne au gilet jaune, du timbre-poste au smartphone, des tongs au hamac découvert par Christophe Colomb aux Antilles et qui va se répandre en Occident, notamment sur les bateaux. Présenter cet objet dans le module lunaire d'Apollo 12 permet à l'historien Sébastien Roseau de le montrer sous un jour inattendu et de ramasser toute son histoire. Philippe Artière explore le destin pédagogique conjugué du tableau noir et du bâton de craie, mieux adapté à l'alphabétisation de masse quand l'apprentissage à la plume et à l'encre d'une écriture tendant vers la calligraphie supposait la précision et la lenteur. Et lors du krach de 1929, c'est avec un bâton de craie et une éponge que les employés de Wall Street suivaient de minute en minute le dévissage des cours. Les historiens observent aujourd'hui une mutation des objets vers la dématérialisation. Je cite « Revoyez ce qu'était un bureau dans les années 1980-90 avec son gros téléphone, son imprimante, son enregistreur, ses stylos, son agenda papier. Tout ça a été remplacé par le smartphone. La couleur des jours publie les bonnes feuilles du livre de Nicolas Nova, Smartphone. Une enquête anthropologique. Pour l'auteur, l'objet se laisse décrire au moyen de quelques métaphores ou facettes illustrant ses usages et le sens donné par les utilisateurs eux-mêmes. La laisse, j'ai comme un fil à la patte, le miroir à selfie ou pour se refaire une beauté en douce, la baguette magique, payer, ouvrir une porte, s'orienter dans l'inconnu, appareiller toutes sortes de prothèses, perches, trépieds, haut-parleurs, extensions Bluetooth. Un véritable écosystème désigné par le terme Appcessory, mélange singulier de logiciels, app et d'objets de la vie quotidienne, Accessory. L'objet qu'on manipule à tout instant, il suffit d'observer les usagers d'une rame de métro, a révélé dans la période du confinement son importance cruciale comme dernière interface du monde. Sur le site libération.fr, l'anthropologue prend le contre-pied de certaines critiques faites aux technologies numériques en général, accusées de délocaliser les individus. Le paradoxe dans cet objet est qu'il nous permet à la fois d'être en lien avec les autres et à la fois de s'éloigner de ce présent autour de nous. C'est cette norme sociale extrêmement courante, qui est chamboulée. Selon lui, le smartphone réactive des débats qui émergent à chaque petit bond technologique. La radio, ou plus tard le Walkman, était aussi accusée d'enfermer dans une bulle. Quand la calculatrice a été inventée, on craignait qu'elle empêche les gens d'apprendre à compter. Il est vrai que pendant le confinement, beaucoup d'entre nous ont expérimenté de nouvelles manières d'être ensemble à distance. L'usage des émoticônes, des gifs ou des mèmes, ces images animées, contribuent à colorer le texte d'un large panel d'émotions et d'affects. Le langage lui-même s'en trouve modifié, l'écriture confine à l'oralité. En élargissant la focale, on peut suivre l'épopée fantastique des objets dans notre société de consommation avec l'enquête historique d'Anthony Galuzzo, publiée aux éditions Zone sous le titre « La fabrique du consommateur ». Passons sur la mise en scène de la marchandise dans les premiers grands magasins à l'aube de cette histoire, alors que dans les années 1950, on voit poindre des signes d'angoisse et d'ennui face à la bureaucratisation et au conformisme que semble incarner le nouvel ordre marchand. Paradoxalement, au lieu de la mettre en cause, l'anticonformisme des 60s va consolider la société marchande en faisant de la différenciation par les objets signes une façon authentique d'être au monde. Le marché invente l'adolescence au seuil du baby-boom et la contre-culture est vite recyclée dans la société du spectacle. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, la Banque interaméricaine de développement qui se dote d'un nouveau président demain.
Oui, la BID, comme on dit, c'est cette institution basée à Washington, mais depuis toujours présidée par un Sud-Américain selon un accord tacite qui veut par ailleurs que le FMI revienne à un ou une européen, européenne et à la Banque mondiale à un ou une américain ou américaine. Cette fois, les États-Unis veulent imposer leur candidat à la tête de la Banque interaméricaine de développement qui, comme son nom l'indique, prête surtout aux pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Bonjour Gaspard Estrada.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur exécutif de l'OPALC, qui est l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po. Elle sert à quoi, la Banque interaméricaine de développement ?
Il sert essentiellement à financer des projets, que ce soit d'infrastructure, d'énergie, mais également de développement social, de la promotion des femmes, le changement climatique. Et il s'agit de la plus importante banque régionale de développement au monde. Elle prête, cette année, elle va prêter plus ou moins 15 milliards de dollars à la région latino-américaine. Donc il s'agit d'une banque, d'une institution essentielle pour l'avenir de l'Amérique latine.
Elle intervient notamment après chaque tremblement de terre destructeur ou catastrophe climatique. Elle peut organiser des réunions de donateurs et si besoin réattribuer des ressources qui étaient d'abord allouées à certains projets. C'est ce qu'elle avait fait pour aider en urgence Haïti en 2010. Elle a été très sollicitée pendant la crise sanitaire du coronavirus sur un continent extrêmement touché avec 300 000 morts, 8 millions de cas déclarés.
Sans aucun doute, sans la BID, l'Amérique latine aura beaucoup de mal à se relever de cette pandémie compte tenu de l'impact qui a été extrêmement fort dans la région et qui malheureusement a aggravé des déficits qui sont préexistants à la pandémie mais qui se sont vus renforcés compte tenu de cette crise sanitaire sans précédent.
Pour autant, c'est quand même une institution assez orthodoxe. On ne peut pas dire que ce soit une institution keynésienne qui distribue de l'argent.
Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Il s'agit d'une institution qui est orthodoxe, de la même manière que les autres grandes institutions financières internationales de Washington le sont. Mais aujourd'hui, pour l'Amérique latine, le renouvellement de cette présidence est fondamental pour l'avenir de la région. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de disputes politiques qui ont lieu suite à la proposition de Donald Trump.
Ah, c'est une institution qui est basée à Washington, mais qui, selon la tradition, échoit toujours à un Sud-Américain. Sauf que là, Donald Trump insiste pour que ce soit un Américain du Nord. Qui est ce Mauricio Claver Caron que Donald Trump voudrait imposer à la tête de cette institution? On le connaît un petit peu.
Oui, il s'agit d'un cubano-américain. C'est l'architecte de la politique de Donald Trump en Amérique latine, donc ces quatre dernières années. C'est lui qui est à l'origine de la position très dure vis-à-vis de Cuba, vis-à-vis du Venezuela, vis-à-vis du Nicaragua. Et il entend utiliser la banque pour mettre en musique la politique de Trump en Amérique latine, non seulement contre ces trois gouvernements, mais aussi contre la Chine, qui est devenue le principal partenaire financier de plusieurs pays latino-américains. Et de ce point de vue-là, on peut aussi craindre que tout l'agenda, par exemple, de lutte contre le changement climatique qui est mis en œuvre par la BID, disparaisse à l'avenir si Claver Caron est élu président de la BID.
Pour être très précis, qu'est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, sur des dossiers existants, des conséquences d'une présidence américaine de cette institution qui, par définition, cette banque fut-elle d'investissement, elle choisit ou pas de financer tel ou tel projet. Donc là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qu'on craint?
Ce qu'on craint, c'est que des projets très importants pour faire face au changement climatique disparaissent, que les pays latino-américains soient contraints à prendre position soit pour la Chine, soit pour les États-Unis dans le cadre d'une présidence Claver-Caron, puisque très clairement le but c'est de faire en sorte que la nature multilatérale de la banque disparaisse pour faire en sorte que la BID se transforme dans le bras financier des États-Unis en Amérique latine. Et c'est ce qui provoque cette grande levée de boucliers contre la candidature de Claver-Caron en Amérique latine.
Il n'y a pas un exemple précis, par exemple, d'un projet dont les États-Unis se sont déjà dit qu'ils y étaient opposés, ou quelque chose sur lesquels les présidents sud-américains, pas tous, parce que le Brésil par exemple, le Chili, la Colombie, j'imagine, soutiennent aussi cette candidature de Donald Trump, mais sur lesquels ils disent attention, nous on a des projets en cours et là ils pourraient s'arrêter.
Alors il n'y a pas de projet précis. En revanche, qu'il y a, c'est qu'il y a, eu un certain nombre d'expressions publiques très claires de M. Claver Caron qui dit le changement climatique ne sera plus la priorité de la BID, la promotion de l'égalité femmes-hommes ne sera plus la priorité de la BID, et donc c'est ce qui suscite l'inquiétude.
Est-ce que c'est une institution, la BID, qu'on dit politisée en fonction de celles et ceux qui en prennent la tête et des pays qui les portent comme candidats? Est-ce que, par exemple, c'est une institution à laquelle peuvent faire appel les pays qui ont des relations plus difficiles avec le FMI ou la Banque mondiale?
Alors justement, l'actuel président, mais les quatre présidents de cette banque ont toujours voulu nouer des relations très larges avec les pays membres de cette banque, justement pour faire fi des éventuelles alternances politiques qui existent, et c'est naturel dans chaque pays. C'est ce qui fait que la BID, par exemple, accorde des prêts au Nicaragua, qui est honni par Washington, mais travaille très bien avec Bolsonaro, et c'est ce qui est en jeu dans cette élection.
Est-ce qu'elle conditionne ses financements comme le FMI? En fonction de ce prêt, on vous demande des réformes?
Non, il n'y a pas, ce mécanisme de conditionnalité, puisque le mandat du FMI est différent. Pardon, le mandat de la BID est différent que celui du FMI.
Vous avez dit tout à l'heure que Mauricio Claver Caron, le candidat que porte Donald Trump et qu'il voudrait voir à la tête de cette institution, est proche par exemple de la diaspora cubaine, qui est présente notamment en Floride. Est-ce qu'il y a une intention politique de très court terme de Donald Trump de vouloir imposer cet homme-là à la tête de la BID?
Il n'y a aucun doute que la nomination de Claver Caron correspond à une stratégie purement électorale de Donald Trump, qui sait Donald Trump a besoin de remporter l'élection en Floride pour pouvoir espérer être réélu à la tête de la Maison Blanche. Et donc de ce point de vue-là, le fait de proposer la candidature de Claver Caron, qui est un affidé, qui est un lieutenant du sénateur Marco Rubio, qui a été le principal architecte sur le plan politique de la politique latino-américaine de Donald Trump, et qui est un allié proche du président des États-Unis, cette candidature s'inscrit dans cette démarche électorale là. On verra si cela a des résultats, mais aujourd'hui, Trump a besoin de remporter cette élection en Floride.
Son argument massue, c'est les États-Unis sont le premier bailleur de fonds de la Banque interaméricaine de développement. C'est le cas. Qui l'abonde d'ailleurs? Qui la finance?
30% les États-Unis sont actionnaires à 30% de cette banque. Donc en effet, les États-Unis sont le principal financeur, mais il s'agit d'une banque multilatérale. Or, c'est l'inverse de ce que prônent M. Claver, Caron et Trump de manière générale. Trump veut transformer cette banque en la succursale du département d'État.
Les États-Unis, est-ce qu'ils ont aussi droit à toucher des fonds, par exemple, quand il y a eu un ouragan? Non, eux, ils ne touchent pas du tout. Ils abondent, c'est...
Voilà, comme les pays européens, d'ailleurs, qui sont également actionnaires de la banque, au même titre que le Japon, que la Corée du Sud, qui sont également actionnaires de cette banque.
Alors, plusieurs voix, et notamment en Europe, se portent aujourd'hui pour reporter l'élection du président, ce sera vraisemblablement un homme de la Banque interaméricaine de développement, parce qu'en attendant, il y a des alternatives. L'Argentine, par exemple, a présenté son propre candidat, Gustavo Belize, qui est-ce? Est-ce que c'est un proche du président péroniste Alberto Fernandez?
Oui, absolument. Il s'agit d'un ancien fonctionnaire de la banque qui a été travaillé dans cette banque pendant près de 8 ans. Et il s'agit d'un candidat qui est plutôt respecté dans les milieux latino-américains, y compris aux États-Unis. Et en effet, cette candidature Claver-Caron a un effet repoussoir. Il y a eu de nombreuses tribunes qui ont été publiées en Amérique latine, aux États-Unis. Un ancien président de la Banque mondiale, Robert Zilli, qui est républicain, a également manifesté son opposition à cette candidature. Et plus récemment,
hier, dans Libération.
Voilà, François Hollande, Felipe González et Massimo D'Alema ont publié une tribune pour critiquer justement cette candidature et pour défendre que Paris et les autres capitales européennes défendent le report, c'est-à-dire que ces capitales n'assistent pas au conseil d'administration qui doit se tenir ce samedi. Si ces pays européens le font, il y a en effet une chance que les pays, que la BID n'ait pas de nouveau président la semaine prochaine. La question est de savoir, est-ce que Paris souhaite froisser Trump alors que la France est engagée dans d'autres élections dans des organisations internationales, notamment la Banque européenne de reconstruction et de développement. Et je sais qu'il y a un marchandage en cours et donc je pense qu'on verra si Emmanuel Macron s'intéresse réellement à l'Amérique latine au cours de cette réunion samedi prochain.
Et l'Argentine aussi, elle prend un risque, elle est quand même en pleine négociation sur sa dette auprès du FMI où les Américains ont un poids très important. Si Donald Trump est réélu, elle prend aussi un risque à s'opposer comme ça publiquement à Donald Trump.
Il n'y a aucun doute par rapport à ça et les autres pays latino-américains qui peuvent soutenir ce report prennent aussi un risque. Je pense notamment au Mexique de López Obrador et au Chili de Sébastien Piñera.
Voilà, et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a aussi plaidé pour un report de l'élection du président de cette Banque interaméricaine de développement. Merci beaucoup, Gaspard Estrada, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Et si Van Gogh n'était pas celui que vous croyez, un fou, un génie, un peintre maudit, aussi ignoré de son temps qu'adulé d'une autre, un peintre instinctif, méprisant tradition et ambition. Revenons aux lettres, aux toiles. Transparaît un esprit vif, cultivé, érudit, un artiste persévérant, parfaitement au fait du marché de l'art et de la valeur de son travail. La Compagnie des œuvres, Vincent Van Gogh, par Mathieu Garrigou-Lagrange, du lundi au jeudi à 15h sur France Culture et sur franceculture.fr.
France Culture présente l'exposition « Cézanne et les maîtres, rêves d'Italie » au musée Marmottan-Monet. Cézanne n'est jamais allé en Italie, pourtant son œuvre en est habitée. Une exceptionnelle sélection de ses toiles sera mise en regard de chefs-d'œuvre des plus grands maîtres italiens du XVIe au XIXe siècle. Tintoret, Le Greco, Ribera, Sofici, Boccioni et bien d'autres. Venez découvrir le plus italien des impressionnistes. Cézanne et les maîtres, rêves d'Italie, jusqu'au 3 janvier au musée Marmottan-Monet à Paris. Un partenariat France Culture.
Bienvenue sur France Culture si vous nous rejoignez à l'instant. Et dans un instant, c'est les matins de France Culture qui commencent avec vous, Guillaume Erner. Bonjour.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour, Guillaume, qui mérite 5 étoiles
Bah,
vous, Julie, vous d'abord, mais pas que, car les 5 étoiles, la notation 5 étoiles est désormais le sésame sur Internet. Du robot cuiseur au livre en passant par l'appli de running, de course, tout le monde voudrait avoir 5 étoiles. Les commentaires, par exemple, de lecteurs sur Amazon ont ainsi acquis un vrai poids, parce qu'on les considère comme plus honnêtes que ceux des critiques traditionnelles. On les considère comme plus honnêtes, ou on devrait les considérer comme plus honnêtes, parce que désormais c'est officiel. La notation sur Internet est devenue au mieux une science, au pire une industrie. Une industrie, je m'explique, vous êtes souvent demandé qui pouvait passer son temps à faire des commentaires, qui passait du temps pour expliquer que le personnel de l'hôtel était sympathique mais la savonnette difficile à déballer, ou bien qui était à ce point un no-life qui n'avait pas de vie, qu'il avait la possibilité d'écrire un avis sur ses achats sur Amazon toutes les 4 heures. Et bien maintenant, on le sait, le Financial Times a trouvé la réponse. Les notes bidons sur Amazon sont tout simplement devenues une industrie. Le FT, le Financial Times, a ainsi identifié 7 clients qui ont rédigé, Julie, 20 000 avis sur les produits qu'ils ont achetés. C'est beaucoup.
Ils étaient payés
pour. En l'occurrence, ils étaient payés pour. Le procédé était assez rustique. Ils trichaient tout simplement. Ils mettaient 5 étoiles à des produits qui ne les méritaient évidemment pas. Mais à côté de cette industrie du faux, il existe aussi une science du 5 étoiles, laquelle permet toujours, selon le Financial Times, de vous tromper vous-même. C'est-à-dire qu'on va vous inciter à mettre 5 étoiles à une application. On va vous inciter à être généreux et large dans votre manière de vous noter cette appli. Il suffit pour cela de vous inciter à noter au bon moment, quand vous êtes heureux de l'application. La science des développeurs consiste donc à savoir quand il faut vous demander de noter cette application, quand on peut vous demander alors d'être heureux et d'éviter, vous savez, les jugements négatifs qui sont liés à des comportements de vengeance. C'est pourquoi on vous demande souvent de noter l'application après un achat, après un appel, après vous avoir dit que vous bénéficiez d'une promotion. C'est pourquoi en ce moment, je réfléchis par exemple à faire bénéficier les auditeurs de 20% de réduction sur tout France Culture pour les inciter à bien noter notre application.